Ernest Renan, Mahomet et les origines de l'islamisme. Toutes les origines sont obscures, les origines religieuses encore plus que les autres. Produits des instincts les plus spontanés de la nature humaine, les religions ne se rappellent pas plus leur enfance que l'adulte ne se rappelle l'histoire de son premier âge et les phases successives du développement de sa conscience. Chrysalides mystérieuses, elles n'apparaissent au grand jour que dans la parfaite maturité de leur forme. Il en est de l'origine des religions comme de l'origine de l'humanité. La science démontre qu'à un certain jour, en vertu des lois naturelles qui jusque-là avaient présidé au développement des choses, sans exception ni intervention extérieure, l'être pensant est apparu, doué de toutes ses facultés et parfait quant à ses éléments essentiels. Et pourtant, vouloir expliquer l'apparition de l'homme sur la terre par les lois qui régissent les phénomènes de notre globe depuis que la nature a cessé de créer, ce serait ouvrir la porte à de si extravagantes imaginations que pas un esprit sérieux ne voudrait s'y arrêter un instant. Il est indubitable encore qu'à un certain jour, par l'expansion naturelle et spontanée de ses facultés, l'homme a improvisé le langage. Et pourtant, aucune image empruntée à l'état actuel de l'esprit humain ne peut nous aider à concevoir ce fait étrange, devenu entièrement impossible dans notre milieu réfléchi. Il faut de même renoncer à expliquer par les procédés vulgaires accessibles à notre expérience les faits primitifs des religions, faits qui n'ont pas d'analogue depuis que l'humanité a perdu sa fécondité religieuse. En face de l'impuissance de la raison réfléchie à fonder la croyance et à la discipliner, comment ne reconnaîtrions-nous pas la force cachée qui, à certains moments, pénètre et vivifie les entrailles de l'humanité? L'hypothèse supernaturaliste offre peut-être moins de difficultés que les solutions superficielles de ceux qui abordent ces redoutables problèmes sans avoir pénétré les mystères de la conscience spontanée. Et si, pour rejeter cette hypothèse, il fallait être arrivé à une opinion rationnelle sur ces faits vraiment divins, bien peu d'hommes auraient le droit de ne pas croire au surnaturel. Et serait-il vrai pourtant que la science dût renoncer à expliquer la formation du globe, parce que les phénomènes qui l'ont amené à l'état où nous le voyons ne se reproduisent plus de nos jours sur une grande échelle? Qu'elle dût renoncer à expliquer l'apparition de la vie et des espèces vivantes, parce que la période contemporaine a cessé d'être créatrice, à expliquer l'origine du langage, parce qu'il ne se crée plus de langue. L'origine des religions, parce qu'il ne se crée plus de religion. Non, certes. C'est l'œuvre infiniment délicate de la science et de la critique de deviner le primitif par les faibles traces qu'il a laissées de lui-même. La réflexion ne nous a pas tellement éloignés de l'âge créateur que l'on ne puisse, à force de finesse, reproduire en soi le sentiment de la vie spontanée. L'histoire, si avare qu'elle soit pour les époques non conscientes, n'est pourtant pas entièrement muette. Elle nous permet, sinon d'aborder directement le problème, au moins de le resserrer par le dehors. Puis, comme rien n'est absolu dans les choses humaines, et qu'il n'y ait pas deux faits dans le passé qui rentrent à la rigueur dans la même catégorie, nous avons des nuances intermédiaires et plus rapprochées de nous pour nous représenter les phénomènes inaccessibles à l'étude immédiate. Le géologue trouve dans l'entrée et gradation de l'état actuel du globe des données pour expliquer les évolutions antérieures. Le linguiste, en assistant aux phénomènes incessamment continués du développement des langues, est amené à concevoir les lois qui en ont réglé la formation. L'historien, à défaut des faits primitifs qui ont signalé les apparitions religieuses, peut atteindre des dégénérescences, des tentatives avortées, des demi-religions, si j'ose le dire, montrant à découvert, quoique dans des proportions plus réduites, les procédés par lesquels se sont formées les grandes créations des époques irréfléchies. La naissance de l'islamisme est, sous ce rapport, un fait unique et véritablement inappréciable. L'islamisme a été la dernière création religieuse de l'humanité, et à beaucoup d'égards la moins originale. Au lieu de ce mystère sous lequel les autres religions enveloppent leurs origines, celle-ci naît en pleine histoire. Ses racines sont à fleur de sol. La vie de son fondateur nous est aussi bien connue que celle de tel réformateur du XVIe siècle. Nous pouvons suivre année par année les fluctuations de sa pensée, ses contradictions, ses faiblesses. Ailleurs, les origines religieuses se perdent dans le rêve. Le travail de la critique la plus déliée suffit à peine pour discerner le réel sous les apparences trompeuses du mythe et de la légende. L'islamisme, au contraire, né au milieu d'une réflexion très avancée, manque absolument de surnaturel. Mahomet, Omar, Ali ne sont ni des voyants, ni des illuminés, ni des thaumaturges. Chacun d'eux sait très bien ce qu'il fait. Nul n'est dupe de lui-même. Chacun s'offre à l'analyse à nu et avec toutes les faiblesses de l'humanité. Grâce aux excellents travaux de Messieurs Weil et Cossin de Perceval, on peut dire sans exagération que le problème des origines de l'islamisme est définitivement arrivé de nos jours à une solution complète et sans mystère. M. Cossin de Perceval, surtout, a introduit dans la question un élément capital par les vues nouvelles qu'il a ouvertes sur les antécédents et les précurseurs de Mahomet, sujet délicat qui n'avait point été aperçu avant lui. Son excellent ouvrage restera comme un modèle de cette érudition forte et sobre qui pourrait s'appeler « école française » si le bon sens, l'exactitude, la solidité suffisait pour faire une école. La finesse et la pénétration de M. Weil sont dignes d'un compatriote de Kreuzer et de Strauss. Sous le rapport du choix et de la richesse des sources, son ouvrage est pourtant inférieur à celui de notre savant compatriote, et on pourrait peut-être lui reprocher d'accorder trop de confiance à des autorités turques et persanes qui n'ont dans cette question que bien peu de valeur. L'Amérique et l'Angleterre se sont aussi beaucoup occupées de Mahomet. Un romancier fort connu, M. Washington Irving, a raconté sa vie avec intérêt, mais sans faire preuve d'une critique fort élevée. Son livre atteste pourtant sous ce rapport un véritable progrès, quand on songe qu'en 1829, M. Chaste Forster publiait deux gros volumes fort goûtés des révérends pour établir que Mahomet n'était autre chose que la petite corne du bouc qui figure au chapitre 7 de Daniel et que le pape était la grande corne. M. Forster fondait sur cet ingénieux parallèle toute une philosophie de l'histoire. Le pape représente la corruption occidentale du christianisme et Mahomet, la corruption orientale. De là, les ressemblances frappantes du mahométisme et du papisme. Ce serait une curieuse histoire que celle des idées que les nations chrétiennes se sont faites de Mahomet, depuis les récits du faux Turpin sur l'île d'Oldor Mahom, adorée à Cadix, et que Charlemagne osa détruire par crainte d'une légion de démons qui y étaient renfermés. Jusqu'au jour où la critique lui a tendu, rendu en un sens divers, il est vrai mais très réel, son titre de prophète. La foi vierge de la première moitié du Moyen-Âge, qui n'eut sur les cultes étrangers au christianisme que les notions les plus vagues, se figurait Maphomet, Bahomet, Baphoum, comme un faux dieu à qui on offrait des sacrifices humains. Et ce ne fut qu'au XIIe siècle que Mahomet apparut comme un prophète et que l'on songea sérieusement à dévoiler son imposture. Plus tard, au XVIe et au XVIIe siècle, Biblander, Rottinger, Marakchi n'osèrent encore s'occuper du Coran que pour le refiter. Prideaux, Bell et Voltaire envisagèrent enfin Mahomet en historien et non plus en controversiste. Mais le manque de documents authentiques les retint dans la discussion des fables puériles qui jusqu'alors avaient défrayé la curiosité du peuple et la colère des théologiens. L'honneur du premier essai d'une biographie de Mahomet d'après les sources orientales appartient à Gagnier. Ce savant fut amené par ses études à demander des renseignements à Boulefada et ce fut une bonne fortune. On peut douter que sa critique eût été assez délicate pour saisir l'immense différence qu'il faut faire quant à la valeur historique entre les récits des historiens arabes et les recueils des légendes écloses de l'imagination persane. Cette distinction capitale que M. Caussin de Perceval seul a rigoureusement observée est, à véritablement parler, le nœud de tous les problèmes relatifs à l'origine de l'islamisme, composé d'après les récits arabes d'Ibn Hisham et d'Abou Filda. La biographie de Mahomet est simple et naturelle, presque sans miracle. Composée d'après les auteurs turcs et persans, sa légende apparaît comme un amas ridicule de fables absurdes et du plus mauvais style. Bien que les traditions relatives à la vie de Mahomet n'aient commencé à être recueillies que sous les Abbassides, les rédacteurs de cette époque s'appuyaient déjà sur des sources écrites dont les auteurs eux-mêmes remontaient, en citant leurs autorités, jusqu'aux compagnons du prophète. Autour de la mosquée attenante à la maison de Mahomet régnait un banc sur lequel avaient élu domicile des hommes sans famille ni demeure qui vivaient de ses générosités et mangeaient souvent avec lui. Ces hommes, que l'on appelait les gens du banc, Harel Sofa, étaient censés connaître beaucoup de particularités sur la personne de Mahomet et leurs souvenirs devinrent l'origine d'innombrables dires ou hadiths. La foi musulmane elle-même fut effrayée de la multitude de documents ainsi obtenus. Six sources légitimes furent seules reconnues à la tradition. Et l'infatigable Bokhari avoue que, sur les 200 000 hadiths qu'il avait recueillis, 7 225 seulement lui paraissaient d'une authenticité incontestable. La critique européenne pourrait assurément, sans encourir le reproche de témérité, procéder à une élimination plus sévère encore. Toutefois, on ne peut nier que ces premiers récits nous présentent beaucoup de traits de la physionomie réelle du prophète et ne se distinguent d'une manière tout à fait tranchée des recueils d'histoires dévotes imaginés uniquement pour l'édification des lecteurs. Le véritable monument de l'histoire primitive de l'islamisme, le Coran, reste d'ailleurs absolument inattaquable et suffirait à lui seul, indépendamment des récits des historiens, pour nous révéler Mahomet. Je ne vois dans aucune littérature un procédé de composition qui puisse donner une idée exacte de la rédaction du Coran. Ce n'est ni le livre écrit avec suite, ni le texte vague et indéterminé, arrivant peu à peu à une leçon définitive, ni la rédaction des enseignements du maître, faite après coup d'après les souvenirs de ses disciples. Le Coran nous offre le singulier exemple d'un texte non écrit et pourtant très arrêté, composé même avec beaucoup de réflexion. C'est le recueil des prédications et, si j'ose le dire, des ordres de jour de Mahomet, portant encore la date du lieu où ils parurent et la trace de la circonstance qui les provoqua. Chacune de ces pièces était écrite après la récitation du prophète, sur des peaux, sur des omoplates de moutons, des os de chameaux, des feuilles de palmier ou conservées de mémoire par les principaux disciples que l'on appelait porteurs du Coran. Ce ne fut que sous le califat d'Abou Berk, après la bataille du Yémama, où périrent un grand nombre de vieux musulmans, que l'on songea à réunir le Coran entre deux ais et à mettre bout à bout les fragments détachés et souvent contradictoires. Il est indubitable que cette compilation fut exécutée avec la plus parfaite bonne foi. Aucun travail de coordination ou de conciliation ne fut tenté. On mit en tête les plus longs morceaux, on réunit à la fin les plus courts surates, qui n'avaient que quelques lignes, et l'exemplaire type fut confié à la garde de Hafsa, fille d'Omar, l'une des veuves de Mahomet. Une seconde recension eut lieu sous le califat d'Ottoman. Quelques variantes d'orthographe et de dialecte s'étant introduites dans les exemplaires des différentes provinces, Ottoman nomma une commission de grammairiens chargée de constituer définitivement le texte d'après le dialecte de la Mecque, puis, par un procédé très caractéristique de la critique orientale, il fit recueillir et brûler tous les autres exemplaires pour couper court aux discussions. C'est ainsi que le Coran est arrivé jusqu'à nous sans variantes bien importantes. Certes, un tel mode de composition est fait pour inspirer quelques scrupules. L'intégrité d'un ouvrage longtemps confié à la mémoire nous semble assez mal gardée. Des altérations et des interpolations n'ont-elles pas pu se glisser dans ces révisions successives? M. Veil, le premier, a élevé des doutes sur tous ces points et soutenu que la recension d'Othman ne fut pas purement grammaticale comme le veulent les Arabes, mais que la politique y eut sa part, surtout en vue de rabattre les prétentions d'Ali. Toutefois, le Coran se présente à nous avec si peu d'arrangements, dans un désordre si complet, avec des contradictions si flagrantes. Chaque morceau porte une physionomie si spéciale que rien ne saurait attaquer le caractère général d'authenticité de ce livre. Nous avons donc l'immense avantage d'avoir pour l'islamisme les pièces mêmes de son origine, pièces très suspectes, assurément, et exprimant beaucoup moins la vérité des faits que les besoins du moment, mais en cela même précieuses aux yeux du critique qui sait les interpréter. C'est sur cet étrange spectacle d'une religion naissante au grand jour, avec pleine conscience d'elle-même, que je voudrais appeler un moment l'attention des penseurs. La critique en général doit renoncer à rien savoir de certain sur le caractère et la biographie des fondateurs de religion. Pour eux, le tissu de la légende a entièrement couvert celui de l'histoire. Était-il beau ou laid, vulgaire ou sublime, nul ne le saura. Les livres qu'on leur attribue, les discours qu'on leur prête, ne sont d'ordinaire que des compositions plus modernes, et nous apprennent beaucoup moins ce qu'ils étaient que la manière dont leurs disciples concevaient l'idéal. La beauté même de leur caractère n'est point à eux. Elle appartient tout entière à la nature humaine, qui les fait à son image. Transformée par cette force incessamment créatrice, la plus laide chenille pourrait devenir le plus beau papillon. Il n'en est point de même pour Mahomet. Le travail de la légende est resté autour de lui faible et sans originalité. Mahomet est réellement un personnage historique. Nous le touchons de toutes parts. Le livre qui nous reste sous son nom représente presque mot à mot les discours qu'il tenait. Sa vie est restée une biographie comme une autre, sans miracle, sans exagération. Ibn Hisham, le plus ancien de ses historiens, Abou Feda, son biographe érudit, sont des écrivains sensés. C'est à peu près le ton de la vie des saints, écrite d'une façon dévote mais raisonnable, quelque chose comme Alban Butter ou Dom Lobino. Et encore, l'on pourrait citer 20 légendes de saints, celles de saint François d'Assise, par exemple, qui sont devenues infiniment plus mythiques que celles du prophète de l'islamisme. Mahomet ne voulut pas être thaumaturge. Il ne voulut être que prophète, et prophète sans miracle. Il répète sans cesse qu'il est un homme comme un autre, mortel, comme un autre, sujet au péché, ayant besoin, comme un autre, de la miséricorde de Dieu. À sa mort, voulant mettre ordre à sa conscience, il monta en chair. « Musulman, dit-il, si j'ai frappé quelqu'un de vous, voici mon dos, qu'il me frappe. Si quelqu'un a été outragé par moi, qu'il me rende injure pour injure. Si j'ai pris à quelqu'un son bien, tout ce que je possède est à sa disposition. » Un homme se leva et réclama une dette de 3 dirhams. « Mieux vaut, dit le prophète, la honte en ce monde que dans l'autre. » Et il le paya sur le champ. Cette extrême mesure, ce bon goût vraiment exquis avec lequel Mahomet comprit son rôle de prophète, lui était imposé par l'esprit de sa nation. Rien de plus inexact que de suivre les Arabes avant l'islamisme comme une nation grossière, ignorante, superstitieuse. Il faudrait dire au contraire une nation raffinée, sceptique, incrédule. Voici un curieux épisode des premiers temps de la mission de Mahomet qui fait très bien comprendre, ce me semble, le scepticisme glacial qu'il rencontrait autour de lui et l'extrême réserve qui lui était commandée dans l'emploi du merveilleux. Il était assis dans le parvis de la Kaaba, à peu de distance d'un cercle formé par plusieurs chefs coréchites, tous opposés à ses doctrines. Odba, fils de Rebia, l'un d'eux, s'approche de lui, prend place à ses côtés, et parlant au nom des autres, « Fils de mon ami, lui dit-il, tu es un homme distingué par tes qualités et ta naissance. » Bien que tu mettes ta perturbation dans la patrie, la division dans les familles que tu outrages, nos dieux que tu taxes d'impiété et d'erreur, nos ancêtres et nos sages, nous voulons user le ménagement avec toi. Écoute les propositions que j'ai à te faire et réfléchis s'il ne te convient pas d'en accepter quelqu'une. Parle, dit Mahomet, je t'écoute. « Fils de mon ami, reprit Odba, si le but de la conduite est d'acquérir des richesses, nous nous cotiserons tous pour te faire une fortune plus considérable que celle d'aucun coréchite. Si tu vises aux honneurs, nous te créerons notre chef et nous te prendrons aucune résolution sans ton avis. Si l'esprit qui t'apparaît s'attache à toi, et te domine de manière que tu ne puisses le soustraire à son influence, nous ferons venir des médecins habiles et nous les paierons pour qu'ils te guérissent. Je ne suis ni avide de bien, ni ambitieux de dignité, ni possédé du malin esprit, répondit Mahomet. Je suis envoyé par Allah, qui m'a révélé un livre et m'a ordonné de vous annoncer les récompenses ou les châtiments qui vous attendent. Eh bien, Mahomet, lui dirent les coréchites, puisque tu n'agrées pas nos propositions et que tu persistes à te prétendre envoyé d'Allah, donne-nous des preuves évidentes de ta qualité. Notre vallée est étroite et stérile. Obtiens de Dieu qu'il élargisse, qu'il éloigne l'une de l'autre ses chaînes de montagnes, qui la resserre, qui lui fasse couler des fleuves, pareil aux fleuves de la Syrie ou de l'Irak, ou bien qu'il fasse sortir du tombeau quelques-uns de nos ancêtres, et parmi eux, Cossé, fils de Kilab, cet homme dont la parole avait tant d'autorité, que ses illustres mots ressuscitent et le reconnaissent pour prophète, et nous te reconnaîtrons aussi. Dieu, répondit Mahomet, ne m'a pas envoyé vers vous pour cela, il m'a envoyé seulement pour prêcher sa loi. Mais au moins, reprirent les Coréchites, demande à ton Seigneur qu'il fasse paraître un de ses anges pour témoigner de ta véracité et nous ordonner de te croire. Demande-lui aussi qu'il montre ostensiblement le choix qu'il a fait de toi en te dispensant du besoin de chercher ta subsistance journalière dans les marchés, comme le moindre des compatriotes. Non, dit Mahomet, je ne lui adresserai pas ces demandes. Mon devoir est seulement de vous prêcher. Eh bien, que ton Seigneur fasse donc tomber le ciel sur nous comme tu prétends qu'il est capable de le faire, car nous ne te croirons pas. On le voit, un Bouddha, un fils de Dieu, un thaumaturge de haute volée, était au-dessus du tempérament de ce peuple. L'extrême finesse de l'esprit arabe, la manière franche et nette dont il se pose dans le réel, le libertinage de mœurs et de croyances qui régnait à l'époque de l'islamisme, interdisaient ces grands airs aux nouveaux prophètes. L'Arabie manque complètement de l'élément qui engendre le mysticisme et la mythologie. Les nations sémitiques n'ont jamais compris en Dieu la variété, la pluralité, le sexe. Le mot déesse serait en hébreu le plus horrible barbarisme. De là ce trait caractéristique qu'elles n'ont jamais eu ni mythologie ni épopée. La façon nette et simple dont elles conçoivent Dieu séparé du monde, n'engendrant point, n'étant pas engendré, n'ayant point de semblable, excluait ces grandes broderie, ces poèmes divins de l'Inde, la Perse, la Grèce ont développé leur fantaisie, et qu'il était possible que dans l'imagination d'un peuple qui laisse flotter indécises les limites de Dieu, de l'humanité, de l'univers. La mythologie, c'est le panthéisme en religion. Or, l'esprit le plus éloigné du panthéisme, c'est assurément l'esprit sémitique. L'arabe, au moins, avait perdu ou peut-être n'avait jamais eu le don de l'invention surnaturelle. À peine trouve-t-on dans toutes les moliakates et dans le vaste répertoire de la poésie anti-islamique une pensée religieuse. Ce peuple n'avait pas le sens du saint, mais en revanche, il avait un sentiment très vif du réel et de l'humain. Voilà pourquoi la légende musulmane est restée si pauvre en dehors de la Perse, et pourquoi l'élément mythique y est absolument nul. Sans doute la vie de Mahomet, comme celle de tous les grands fondateurs, s'est entourée de fables, mais ces fables sont arrivées à quelques extinctions que chez les chiites, dominés par le tour de l'imagination persane. Bien loin de tenir au fond de l'islamisme, ce ne sont que des scories accessoires, tolérées plutôt que consacrées, à peu près comme cette mythologie de bas étage des livres apocryphes que l'Église n'a jamais franchement adoptée, bien qu'elle n'ait garde de se montrer à cet égard trop rigoureuse. Comment l'imagination populaire n'eût-elle pas entouré de quelques prodiges une existence si extraordinaire? Comment l'enfance du peuple prophète, surtout, thème si avantageux pour les légendes, n'eût-elle pas tenté les conteurs? Les crédules historiens vous diront, par exemple, que la nuit où naquit le prophète, le palais de Chosroès fut ébranlé par un tremblement de terre. Le feu sacré des images, des mages s'éteignit, et le sac de Saola se dessécha. Le tigre déborda et toutes les idoles du monde tombèrent la face contre terre. Tout cela, néanmoins, ne s'élève jamais à la hauteur d'une légende surnaturelle et consacrée. Et en somme, les récits de l'enfance de Mahomet, malgré quelques taches, se restaient une page charmante de grâce et de naturel. Pour faire mieux apprécier cette sobriété, je donnerai ici un échantillon de la manière dont l'Inde s'est fêtée la naissance de ses héros. Quand les créatures apprennent que Bouddha va naître, tous les oiseaux de l'Himalaya accourent au palais de Kapila et se posent en chantant et en battant des ailes sur les terrasses, les balustrades, les arceaux, les galeries, les toits du palais. Les étangs se couvrent de lotus. Le beurre, l'huile, le miel, le sucre, quoiqu'on les emploie en abondance, paraissent toujours entiers. Les tambours, les harpes, les théorbes, les cymbales rendent sans être touchés des sons mélodieux. Des dieux et des solitaires accourent de chacun des 10 horizons pour accompagner le Bouddha. Le Bouddha descend accompagné de centaines de millions de divinités. Et au moment où il descend, les 3000 grands piliers des régions du monde sont illuminés d'une immense splendeur, effaçant celle des dieux. Pas un être n'éprouve de frayeur ni de souffrance. Tous ressemblent à un bien-être infini et n'ont que des pensées affectueuses et tendres. Des centaines de millions de dieux, avec les mains, avec les épaules, avec la tête, soutiennent et portent le char de Bouddha. 100 000 apsaras conduisent les chœurs de musique en avant, en arrière, à droite, à gauche, et chantent les louanges de Bouddha. Au moment où il va sortir du sein de sa mère, toutes les fleurs ouvrent leurs calices, de jeunes arbres s'élèvent du sol et entrouvrent leurs boutons. Des eaux de senteur coulent de toutes parts. Des flancs de l'Himalaya, les jeunes lions accourent tout joyeux à la ville de Kapila et s'arrêtent aux portes sans faire de mal à personne. 500 jeunes éléphants blancs viennent toucher avec leurs trompes les pieds du roi, père de Bouddha. Les enfants des dieux, parés de ceintures, apparaissent dans l'appartement des femmes allant et venant de côté et d'autre. Les femmes des Nagas, laissant voir la moitié de leur corps, apparaissent s'agitant dans les airs. 10 000 filles des dieux, tenant à la main des éventails de queues de paon, apparaissent arrêtées dans le ciel. 10 000 urnes pleines apparaissent, faisant le tour de la grande cité de Kapila. 100 000 filles des dieux, portant des congs, des tambours, des tambourins suspendus à leur cou, apparaissent immobiles. Tous les vents retiennent leur souffle, tous les fleuves et tous les ruisseaux s'arrêtent. Le soleil, la lune et les étoiles cessent de se mouvoir. Une lumière de 100 000 couleurs, produisant le bien-être dans le corps et l'esprit, se répand de toutes parts. Le feu ne brûle plus. Aux galeries, aux palais, aux terrasses, aux arceaux des portes apparaissent suspendus des perles et des pierres précieuses. Les corneilles, les vautours, les loups, les chacals cessent leurs cris. Ils ne s'élèvent que des sons doux et agréables. Tous les dieux des bois de Salas, sortant à demi leur corps du feuillage, apparaissent immobiles et inclinés. Des parasols, grands et petits, se déploient de tous côtés dans les airs. La reine, cependant, s'avance dans le jardin Lumbini. Un arbre s'incline et la salue. La reine en saisit une branche et, regardant le ciel avec grâce, fait un bâillement et reste immobile. Le Bouddha s'élance de son côté droit sans le blesser. Un lotus blanc perce la terre et s'ouvre pour le recevoir. Un parasol descend du ciel pour le couvrir. Un fleuve d'eau froide et un fleuve d'eau chaude accourent pour le baigner, etc. Voilà ce qui s'appelle entamer hardiment la légende et ne pas marchander avec le surnaturel. L'Arabie était arrivée à un trop grand raffinement intellectuel pour qu'on puisse y former une légende surnaturelle de ce style. La seule fois que Mahomet ait voulu se permettre une imitation des fantaisies transcendantes des autres religions, dans son voyage nocturne à Jérusalem sur un animal fantastique, la chose tourna au plus mal. Ce récit fut accueilli par une tempête de plaisanteries. Plusieurs de ses disciples abjurèrent et le prophète se hâta de retirer sa fâcheuse idée en déclarant que ce merveilleux voyage, donné d'abord comme réel, n'avait été qu'un rêve. Toute la légende arabe de Mahomet, telle qu'elle se lit dans la bouffée d'art, se borne à quelques récits fort sobrement inventés. On cherche à le mettre en rapport avec les hommes illustres de son temps et de la génération précédente. On fait prophétiser sa mission par des personnages vénérés. Lorsqu'il parcourait les solitudes voisines de la Mecque, plein de sa pensée, il entendait des voix qui lui disaient « Salut, apôtre de Dieu !» Il se retournait et ne voyait que des arbres et des rochers. À sa fuite de la Mecque, il se réfugie dans une caverne. Ses ennemis vont y pénétrer quand il remarque un nid dans lequel une colombe avait déposé ses œufs et un réseau de toiles d'araignées qui fermait le chemin. Sa chamelle était inspirée et, quand les chefs des tribus venaient prendre la bride de sa monture pour lui offrir l'hospitalité, il disait « Laissez-la marcher, c'est la main de Dieu qui la guide. » Son sabre aussi fait quelques miracles. À l'issue d'une bataille, il s'était assis à l'écart au pied d'un arbre, ayant sur ses genoux cette arme dont la poignée était d'argent. Un bédouin ennemi l'aperçut. Il s'approche en faisant un long détour et feignant d'être attiré par un simple motif de curiosité. « Permets-tu que j'examine ton sabre ?» lui dit-il. Mahomet le lui présente sans défiance. L'arabe le prend, le tire du fourreau et va frapper, mais le sabre refuse d'obéir. Tous les prodiges de sa vie sont aussi transparents. Lui-même ne savait rien d'inventer de bien neuf en ce genre. L'ange Gabriel faisait tous les frais de ses miracles. Il semble qu'il ne connût pas d'autre machine. La bataille de Bedr seule fournit quelques exemples de la grande création merveilleuse improvisée sur place. Une légion d'anges combattit pour les musulmans. Un arabe, qui s'était placé sur les montagnes environnantes, vit un nuage s'approcher de lui, et du sein de ce nuage il entendit sortir des hennissements de chevaux et une voix qui disait « En avant, Aizoum !» C'est le nom du cheval de l'ange Gabriel. Un musulman raconta que, poursuivant un Mecquois le sabre à la main, il avait vu la tête du fuyard tomber à terre sans que son sabre l'eût atteint. Il en conclut que la main d'un envoyé céleste avait prévenu la sienne. D'autres affirmèrent avoir distingué clairement les anges à leur turban blanc, dont un bout flottait sur les épaules, tandis que Gabriel, leur chef, avait le front ceint d'un turban jaune. Quand on sait l'état d'excitation où se mettent les Arabes avant et durant la bataille, et quand on songe que cette journée fut le premier élan de l'enthousiasme musulman, bien loin de s'étonner que ces récits aient trouvé créance, on est surpris que le cerveau des combats de Bedr n'ait enfanté que d'aussi sobres merveilles. À une époque beaucoup plus moderne et sous l'influence du génie persan, si radicalement opposée au génie arabe, la légende de Mahomet s'est compliquée, je le sais, de circonstances merveilleuses qui la rapprochent beaucoup des grandes légendes mythologiques de la Haute-Asie. La Perse, quoique domptée par l'islamisme, ne plia jamais sous l'esprit sémitique. En dépit de la langue et de la religion qui lui étaient imposées, elle sut revendiquer ses droits de nation indo-européenne en se créant une philosophie, une épopée, une mythologie. Ouvrez le Hayat al-Kulub, recueil de traditions chiites. Vous y verrez que, la nuit où naquit le prophète, 70 000 palais de rubis et 70 000 palais de perles furent bâtis dans le paradis et furent appelés les palais de la naissance. Il naît tout circoncis. Des sages-femmes d'une beauté extraordinaire sont présentes, sans avoir été prévenues. Une lumière, dont l'éclat est splendide en toute l'Arabie, sort avec lui du sein de sa mère. Aussitôt né, il se jette à genoux, élève son regard au ciel et s'écrie « Dieu seul est Dieu, et je suis son prophète !» Dieu revêt son apôtre de la chemise du divin contentement et de la robe de la sainteté, rattachée par la ceinture de l'amour de Dieu. Il chausse les sandales de la respectueuse terreur, ceint la couronne de la préséance et prend en main la baguette de l'autorité religieuse. À 3 ans, 2 anges lui ouvrent le côté, lui enlèvent le cœur, en expriment les gouttes noires du péché et y mettent la lumière prophétique. Mahomet voyait derrière comme devant. Sa salive rendait douce l'eau de mer. Ses gouttes de sueur étaient comme des perles. Son corps ne projetait d'ombre ni de soleil, ni au clair de la lune. Aucun insecte n'approchait de sa personne. Rien d'arabe dans ce site insipide, et cela a complètement méconnu le caractère de la légende de Mahomet, qui l'ont cherché dans ses grotesques récits, tout empreint du goût persan. Ces ridicules imaginations ne préjudicient pas plus à la pureté de la légende arabe primitive que les fades amplifications des évangiles apocryphes ne nuisent à l'incomparable beauté des canoniques. Les éléments légendaires de l'origine de l'islamisme sont toujours ainsi restés à l'état de tradition sporadique et sans autorité. Au lieu d'un être surhumain suspendu entre ciel et terre, sans père ni frère ici-bas, nous n'avons qu'un arabe entaché de tous les défauts du caractère de sa nation. Au lieu de cette haute et inaccessible rigueur de supernaturalisme, femme, qu'y a-t-il entre vous et moi? Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la pratiquent. Nous avons ici toutes les aimables faiblesses de l'humanité. À la bataille d'Autas, une captive que des musulmans entraînaient avec rudesse s'écria « Respectez-moi, je tiens de près à votre chef. » On la conduisit à Mahomet. « Prophète de Dieu, lui dit-elle, je suis ta sœur de lait. Je suis Chaïma, fille de Halima, ta nourrice de la tribu des Benoussad. » « Quelle preuve me donneras-tu de cela ?» demanda Mahomet. « Une morsure que tu me fis à l'épaule, répondit-elle, un jour que je te portais sur mon dos. » Et elle montra la cicatrice. Cette vue, rappelant à Mahomet le souvenir de sa première enfance et des soins qu'il avait reçus dans une pauvre famille de Bédouins, l'émut d'attendrissement. Quelques larmes mouillèrent ses yeux. « Oui, tu es ma sœur, » dit-il à Chaïma. Et, se dépouillant de son manteau, il la fit asseoir dessus. Puis il reprit. « Si tu veux rester près de moi, tu vivras tranquille et honoré parmi les miens. Si tu aimes mieux retourner dans ta tribu, je te mettrai en état d'y passer tes jours dans l'aisance. » Chaïma témoigna qu'elle préférait le séjour du désert, et Mahomet la renvoya comblée de ses dons. Rien n'est dissimulé de ses faiblesses et de ses humbles côtés. qu'il commence par être commis voyageur en Syrie, où il fait de bonnes affaires. Aucun signe extraordinaire ne le distingue. Il a son surnom comme un autre, on l'appelle El-Amin, l'homme sûr. Dans sa première jeunesse, il se bat avec les Koraïchites contre les Avazines, et les Koraïchites n'en sont pas moins taillés en pièces. Dans une course, sa chamelle est distancée par celle d'un bédouin. Il en éprouve un vif dépit. L'Arabie ne s'est pas cru obligée, pour exalter son prophète, de l'élever au-dessus de l'humanité, de le soustraire aux affections de tribus, de familles et à d'autres plus humbles encore. Les historiens musulmans nous racontent qu'il aimait son cheval et sa chamelle, qu'il essuyait leur sueur avec sa manche. Quand sa chatte avait faim ou soif, il se levait pour lui ouvrir et il soignait attentivement un vieux coq qu'il gardait chez lui pour se préserver du mauvais œil. Dans son intérieur, il nous apparaît comme le plus honnête père de famille. Souvent, en prenant par la main Hassan et Hossein, nés du mariage d'Ali et de sa fille Fatima, il les faisait sauter, danser, en leur répétant des paroles enfantines qui ont été conservées. Quand il les apercevait au beau milieu d'une prédication, il allait les embrasser, les plaçait près de lui dans la chaire, et après quelques mots d'excuse sur leur innocence, il reprenait son discours. Après la conversion des Benu Tenim à l'islamisme, un de leurs principaux chefs, Kaïs, fils d'Assim, étant à Médine, entra une fois chez Mahomet et le trouva tenant sur ses genoux une petite fille qu'il couvrait de baisers. « Qu'est-ce que cette brebis que tu flaires ? » demanda-t-il. « C'est mon enfant, » répondit Mahomet. « Par Dieu, » reprit Caïs, « j'ai eu beaucoup de petites filles comme celle-ci. Je les ai toutes enterrées vivantes, sans en flairer aucune. » « Malheureux !» s'écria Mahomet. « Il faut que Dieu ait privé ton cœur de tout sentiment d'humanité. Tu ne connais pas la plus douce jouissance qu'il soit donné à l'homme d'éprouver. » Ses biographes ne prennent pas plus de soin qu'il n'en prenait lui-même pour cacher sa passion dominante. « Deux choses au monde, disait-il, ont eu de l'attrait pour moi. Ce sont les femmes et les parfums. Mais je ne trouve de félicité pure que dans la prière. » Ce point fut le seul sur lequel il dérogea à ses propres lois et réclama son privilège de prophète. Contrairement à toutes les prescriptions, il eut 15 femmes, d'autres 10, 25. Les épisodes les plus délicats ne pouvaient manquer de surgir dans un tel ménage. Ajoutez que la jalousie la plus subtile paraît avoir été un des traits de son caractère. Un verset du Coran défend expressément à ses femmes de se remarier après sa mort. Dans sa dernière maladie, il disait à Aïcha, « Ne serais-tu pas satisfaite de mourir avant moi et de savoir que ce serait moi qui t'envelopperais dans le linceul, qui prierais sur toi, qui te déposerais dans la tombe ?»« J'aimerais assez cela, » répondit Aïcha, « si je n'avais l'idée qu'au retour de mon enterrement, tu viendrais ici te consoler de ma perte avec quelque autre de tes femmes. » Cette saillie fit sourire le prophète. L'épisode de son mariage avec Maria la copte est un des plus singuliers. Une copte, une esclave, une chrétienne, se vit préférée durant plusieurs nuits aux nobles filles d'Abou Bekr et d'Amar du plus pur sang chréchite. Ce choix provoqua une vraie sédition dans le harem, à propos de laquelle Dieu révéla ce qui suit. Ô apôtre de Dieu, pourquoi, dans la vue de complaire à tes femmes, t'abstiendrais-tu de ce que Dieu te permet? Le Seigneur est bon et miséricordieux. Il annule des sermons inconsidérés. Il est votre maître, il a la science et la sagesse. Ainsi autorisé à punir les rebelles, Le prophète les répudia pour un mois qu'il donna tout entier à Maria. Ce ne fut que sur les vives instances d'Abou Bekr et d'Omar qu'il consentit à reprendre leur fille après les avoir admonestées par cet autre verset. Si vous vous opposez au prophète, sachez que Dieu se déclare pour lui. Il ne tiendrait qu'à lui de vous répudier toutes, et le Seigneur lui donnerait des épouses meilleures que vous, de bonnes musulmanes, pieuses, soumises, dévouées. Le scandale fut bien plus grave lors du mariage de Mahomet avec Zeyham. Elle était déjà mariée à Zayd, fils adoptif du prophète. Un jour que celui-ci allait visiter Zayd, il trouva Zaynab seule et couverte de vêtements légers qui dérobaient à peine la beauté de ses formes. Son émotion se trahit par ces mots « Louange à Dieu qui dispose des cœurs !» Puis il s'éloigna. Mais le sens de cette exclamation n'échappa point à Zaynab, qui la rapporta à Zayd. Celui-ci courut immédiatement annoncer à Mahomet qu'il était prêt à répudier sa femme. Le prophète combattit d'abord ce dessein, mais Zayd insista. Zaynab, disait-il, fier de sa noblesse, avait envers lui un ton de hauteur qui détruisait le bonheur de leur union. Malgré l'usage qui interdisait aux Arabes d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs, quelques mois après, Zaynab prenait rang parmi les femmes du prophète. Quelques versets du Coran firent cesser les murmures des musulmans austères, et le complaisant Zayd vit son nom inscrit dans le livre saint. En somme, Mahomet nous apparaît comme un homme doux, sensible, fidèle, exempt de rancune et de haine. Ses affections étaient sincères, son caractère en général porté à la bienveillance. Lorsqu'on lui serrait la main en l'abordant, il répondait cordialement à cette étreinte, et jamais il ne retirait la main le premier. Il saluait les petits-enfants et montrait une grande tendresse de cœur pour les femmes et les faibles. « Le paradis, disait-il, est au pied des mers. » Ni les pensées d'ambition, ni l'exaltation religieuse n'avait desséché en lui le genre des sentiments individuels. Rien de moins ressemblant à cet ambitieux machiavélique et sans cœur, expliquant en inflexibles alexandrins ses projets à Zopyre. Je dois régir en Dieu l'univers prévenu. Mon empire est détruit si l'homme est reconnu. L'homme, au contraire, est chez lui toujours à découvert. Il avait conservé toute la sobriété et la simplicité des mœurs arabes. Aucune idée de majesté. Son lit était un simple manteau et son oreiller une peau remplie de feuilles de dattier. On le voyait traire lui-même ses brebis et il s'asseyait à terre pour accommoder ses vêtements et ses chaussures. Toute sa conduite dément le caractère entreprenant audacieux qu'on est convenu de lui attribuer. Il se montre habituellement faible, irrésolu, peu sûr de lui-même. M. Veil va jusqu'à le traiter de poltron. Il est certain qu'en général, il avançait timidement et résistait presque toujours à l'entraînement de ses compagnons. Ses précautions dans les batailles étaient peu dignes d'un prophète. Il se couvrait de deux haubères et portait sur la tête un casque à visière qui lui recouvrait la figure. À la déroute d'Ohod, sa tenue est on ne peut plus nuisante à un envoyé de Dieu. Renversé dans un fossé, il ne dut la vie qu'au dévouement des ansars qui le couvrirent de leur corps et il se releva tout souillé de sang et de boue. Son extrême circonspection perce à chaque pas. Il écoutait volontiers les avis et y montrait beaucoup de déférence. Souvent même, on le voit céder à la pression de l'opinion publique et se laisser entraîner à des démarches que sa prudence réprouvait. Ses disciples, ayant une idée beaucoup plus haute que lui de ses dons prophétiques et croyant en lui beaucoup plus que lui-même, ne comprenait rien à ces hésitations et à ces ménagements. Toute l'énergie qui fut déployée dans la fondation de la religion nouvelle appartient à Omar. Omar est vraiment le symbole de l'islamisme, le glaive qui tranche et décide. On ne peut douter que le caractère indécis de Mahomet n'eût compromis son œuvre sans l'adjonction de cet impétueux disciple, toujours prêt à tirer le sabre contre ceux qui n'admettaient pas sans examen la religion qu'il avait d'abord persécutée. La conversion d'Omar fut le moment décisif dans le progrès de l'islamisme. Jusque-là, les musulmans s'étaient cachés pour pratiquer leur religion et n'avaient osé confesser leur foi en public. L'audace d'Omar, son ostentation à s'avouer musulman, la terreur qu'il inspirait, leur donna la confiance de paraître au grand jour. Il ne semble pas que Mahomet ait rien vu au-delà de l'horizon de l'Arabie, ni qu'il ait songé que sa religion pût convenir à d'autres qu'aux Arabes. Le principe conquérant de l'islamisme, cette pensée que le monde doit devenir musulman, est une pensée d'Omar. C'est lui qui, après la mort de Mahomet, gouvernant en réalité sous le nom du faible Abou Berk, au moment où l'œuvre du prophète à peine ébauchée va se disloquer, c'est lui qui arrête la défection des tribus arabes et donne à la religion nouvelle son dernier caractère de fixité. Si la chaleur d'un tempérament impétueux, s'attachant avec frénésie à un dogme, afin de pouvoir haïr à son aise, doit s'appeler foi, Omar a réellement été le plus énergique des croyants. Jamais on a cru avec plus de rage, jamais on a dépensé plus de colère au nom de l'indubitable. Le besoin de haine amène souvent à la foi les caractères entiers et sans nuance, car la foi absolue est le plus puissant prétexte de haine, celui auquel on s'abandonne avec le plus de sécurité de conscience. Le rôle de prophète a toujours ses épines, et en face de compatriotes aussi disposés à le trouver en défaut, Mahomet ne pouvait manquer d'avoir à traverser des moments difficiles. Il s'en tirait en général avec beaucoup d'habileté, évitant d'exagérer son rôle et craignant toujours de s'aventurer trop loin. Il pouvait paraître surprenant qu'un envoyé de Dieu essuyât des défaites, vît ses prévisions déjouées, remportât des demi-victoires. Dans les grandes légendes surnaturelles, les choses sont bien autrement menées. Tout y est tranché, absolu, comme il convient lorsque Dieu s'en mêle. Il était trop tard pour prendre les choses sur un ton aussi élevé. Voilà pourquoi, dans la vie de ce dernier des prophètes, tout se passe à demi et par à peu près, d'une manière toute humaine et toute historique. Il est battu, il se trompe, il recule, il se corrige, il se contredit. Les musulmans reconnaissent jusqu'à 225 contradictions dans le Coran, c'est-à-dire 225 passages qui ont été plus ou tard abrogés en vue d'une autre politique. Quant aux traits de la vie de Mahomet qui, à nos yeux, seraient des tâches impardonnables à sa moralité, il serait injuste d'y appliquer une critique trop rigoureuse. Il est évident que ses actes ne produisent pas sur ses contemporains, ne produisent pas sur les historiens musulmans la même impression que sur nous. On ne peut nier pourtant que plusieurs fois il ne fasse le mal avec pleine connaissance et en sachant très bien qu'il obéit à sa propre volonté et non à l'inspiration de Dieu. Il permet le brigandage, il commande des assassinats, il ment et il permet de mentir à la guerre par stratagème. On pourrait citer une foule de circonstances où il pactise avec la morale dans un intérêt politique. Une des plus singulières, assurément, est celle où il promet d'avance à Othman le pardon de tous les péchés qu'il pourra commettre jusqu'à sa mort, en compensation d'un grand sacrifice pécuniaire. Il était surtout impitoyable pour les rieurs. La seule femme pour laquelle il se montra rigoureux à la prise de la Mecque fut la musicienne Fertena, qui chantait habituellement les vers satiriques que l'on composait contre lui. Sa conduite envers son secrétaire est aussi infiniment caractéristique. Cet homme, qui écrivait le Coran sous la dictée du prophète, assistait de trop près à son inspiration pour que leur confiance réciproque fût bien vive. Mahomet ne l'aimait pas. Il l'accusait de changer des mots et de dénaturer le sens de ses dictées, si bien que le secrétaire, agité de sinistres pressentiments, s'enfuit et abjura l'islamisme. Après la prise de la Mecque, il retomba dans les mains des musulmans. Mahomet ne se laissa arracher son pardon qu'avec une peine infinie. Et quand l'apostat se fut retiré, il expliqua, prima avec humeur aux musulmans, son mécontentement de ce qu'il n'avait pas délivré de cet homme. Il y aurait aussi quelque injustice à juger en toute rigueur et avec nos idées réfléchies les actes de Mahomet qui, de nos jours, seraient appelés des supercheries. On ne saurait se figurer à quel point, chez les musulmans, la conviction et même, en un sens, la noblesse de caractère peuvent s'allier à un certain degré d'imposture. Le chef de la secte des Wahhabites, Abdel Wahhab, un vrai déiste, le sot saint de l'islamisme, n'inspirait-il pas à ses soldats la plus aveugle confiance en leur donnant, avant la bataille, un sauf-conduit signé de sa main et adressé au trésorier du paradis pour que celui-ci les admît d'emblée et sans interrogatoire préalable? Tous les fondateurs des Rouen ou ordres religieux d'Algérie réunissent le double caractère d'ascète et d'audacieux charlatan. Sidi Aïssa, le plus étrange de ces modernes prophètes, Sidi Aïssa, dont la légende a presque atteint les proportions de celle de Mahomet, n'était qu'un jongleur et un montreur de bêtes qui sut habilement exploiter son métier. Et aucun de ceux qui ont voyagé en Algérie ne croira que les Aïssaoua soient dupes de leur propre prestige. Certes, il serait de mauvais goût de comparer Mahomet à ces imposteurs de bas étage. Il faut pourtant avouer que, si la première condition du prophète est de se faire illusion à lui-même, Mahomet ne mérite pas ce titre. Toute sa vie révèle une réflexion, une combinaison, une politique qui ne rentre guère dans le caractère d'un enthousiasme obsédé de ses visions divines. Jamais tête ne fut plus lucide que la sienne. Jamais homme ne posséda mieux sa pensée. Ce serait poser la question d'une manière étroite et superficielle que de se demander si Mahomet croyait à sa propre mission. Car en un sens, la foi seule est capable de soutenir l'homme dans la lutte pour l'idée morale qu'il a embrassée. Et d'un autre côté, il est absolument impossible d'admettre qu'un homme d'une conscience aussi claire crût avoir entre les deux épaules le sceau de prophétie et tenir de l'ange Gabriel l'inspiration qu'il recevait de ses passions et de ses desseins prémédités. M. Whale et M. Washington, Irving, supposent, non sans vraisemblance, que dans la première phase de sa vie prophétique, un enthousiasme vraiment saint soulevait sa poitrine, et que la période réfléchie ne vint qu'ensuite, lorsque la lutte et le sentiment des difficultés à vaincre eurent terni la délicatesse première de son inspiration. Les dernières surates du Coran, si resplendissantes de poésie, seraient l'expression de sa conviction naïve. tandis que les premières se hâtent, pleines de politique, chargées de disputes, de contradictions, d'injures, seraient l'œuvre de son âge pratique et réfléchi. On ne peut nier que les premières apparitions de son génie prophétique ne soient empreintes d'un grand caractère de sainteté. On le voyait seul en prière dans les vallées désertes des environs de la Mecque, Ali, fils d'Abu Talib, à l'insu de son père et de ses oncles, l'accompagnait quelquefois et priait avec lui, imitant ses mouvements et ses attitudes. Un jour, Abu Talib les surprit dans cette occupation. « Et que faites-vous ? Leur dit-il. « Et quelle religion suivez-vous donc ?»« La religion de Dieu, de ses anges, de ses prophètes, » répondit Mahomet. « La religion d'Abraham, qu'il est grand aussi dans les premières épreuves de son apostolat. » Un jour, après avoir passé le jour à prêcher, il rentra chez lui sans avoir rencontré un seul individu, homme ou femme, libre ou esclave, qui ne l'eût accablé d'affront et n'eût repoussé ses exhortations avec mépris. Accablé, découragé, il s'enveloppa de son manteau et se jeta sur une natte. C'est alors que Gabriel lui révéla la belle sourate. Ô toi qui es enveloppé d'un manteau, lève-toi et prêche. Toutefois, ce parfum de sainteté n'apparaît qu'à de rares intervalles dans sa période d'activité. Peut-être reconnut-il que le sentiment moral et la pureté de l'âme ne suffisent pas dans la lutte contre les passions et les intérêts, et que la pensée religieuse, du moment qu'elle aspire au prosélytisme, est obligé de prendre les allures de ses adversaires moins délicats. Il semble du moins qu'après avoir cru sans arrière-pensée à sa prophétie, il perdit ensuite sa foi spontanée et continua néanmoins de marcher guidé par sa réflexion et sa volonté, moins grand dès lors, à peu près comme Jeanne d'Arc redevint femme dès qu'elle réfléchit à sa mission et perdit sa naïveté. L'homme est trop faible pour porter longtemps la mission divine, et ceux-là seuls sont immaculés que Dieu a bientôt déchargés du fardeau de l'apostolat. Question plus étrange peut-être et que la critique pourtant ne peut pas se refuser à poser. Jusqu'à quel point les disciples de Mahomet croyait-il à sa mission prophétique? Il peut sembler étrange de révoquer en doute la parfaite spontanéité et la conviction absolue d'hommes que l'élan de leur foi entraîna du premier bond jusqu'aux extrémités du monde. D'importantes distinctions sont pourtant ici nécessaires. Dans le cercle des fidèles primitifs, parmi les Mojahidis et les Ansars, la foi était, il faut l'avouer, à peu près absolue. Mais si nous sortons de ce petit groupe, qui ne dépassait pas quelques milliers d'hommes, nous ne trouvons autour de Mahomet et dans tout le reste de l'Arabie que l'incrédulité la moins déguisée. L'antipathie des Mecquois pour leurs compatriotes ne fut jamais pleinement domptée. L'épicuréisme qui régnait chez les riches coréchites, l'esprit léger et libertin des poètes alors en vogue, ne laissait place à aucune conviction profonde. Quant aux autres tribus, il est certain qu'elles n'embrassèrent l'islamisme que pour la forme, sans s'enquérir des dogmes qu'il fallait croire et sans y attacher grande importance. Elle ne voyait pas grand inconvénient à prononcer la formule de l'islam, sauf à l'oublier quand le prophète ne serait plus. Parce que Khalid parut chez les Djalimia en les sommant d'embrasser la foi du prophète, ces bonnes gens savaient si peu de quoi il était question qu'ils crurent qu'il s'agissait du sabéisme et qu'ils jetèrent leurs armes en criant « Nous sommes Sabéens !» La fière tribu des Thakils imagina un singulier accommodement pour sauver la honte de sa conversion. Ils consentirent à se soumettre à la foi nouvelle à la condition qu'ils conserveraient encore pendant 3 ans leur idole Lath. Cette condition ayant été rejetée, ils demandèrent à garder Lath pendant 1 an, pendant 6 mois, pendant 1 mois. Leur fierté voulait une concession. Ils se rabattirent enfin à demander l'exemption de la prière. La conversion des Théménites n'est pas moins curieuse. Leurs ambassadeurs se présentèrent fièrement et, s'approchant des appartements du prophète et de ses femmes, « Sors, Mahomet !» lui crièrent-ils. « Nous venons te proposer une lutte de gloire. Nous amenons notre poète et notre orateur. » Mohamed sortit et l'on prit place autour des jouteurs. L'orateur Otan et le poète Zibrikan exaltèrent, l'un en prose rimée, l'autre en vers, les avantages de leur tribu. Répondirent par des pièces improvisées sur le même maître et avec la même rime, et établirent avec tant d'énergie la supériorité des musulmans que les Théménites s'avouèrent vaincus. « Mahomet est vraiment un homme favorisé du ciel !» se dirent-ils. Son orateur et son poète ont vaincu les nôtres. Et ils se firent musulmans. Toutes les conversions étaient de ce genre. On faisait ces conditions. On prenait et on laissait. Le vieil Amir, fils de Tophail, était venu trouver Mahomet. « Si j'embrasse l'islamisme, lui dit-il, quel sera mon rang ?»« Celui des autres musulmans, répondit Mohammed. Tu auras les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous. »« Oh, cette égalité ne me suffit point. Déclare-moi ton successeur dans le commandement de la nation, et j'adhère à tes croyances. »« Il ne m'appartient pas de disposer du commandement après moi. » Dieu le donnera au personnage qui lui plaira de choisir. Eh bien, partageons maintenant le pouvoir. Règne sur les villes, sur les Arabes à demeure fixe et moi sur les Bédouins. Mahomet, n'ayant pas voulu consentir à ces conditions, Amir renonça à se faire musulman. Mais c'est surtout après la mort de Mahomet que l'on put voir l'extrême faiblesse de la conviction qui avait groupé autour de lui les différentes tribus arabes. Ce fut une apostasie en masse. Les uns disaient que si Mahomet était réellement envoyé de Dieu, il ne serait pas mort. D'autres prétendaient que sa religion ne devait durer que pendant sa vie. À peine la nouvelle de sa maladie se fut-elle répandue, qu'il apparut dans toute l'Arabie une nuée de prophètes. Chaque tribu voulut avoir le sien, comme les Kréchenites, l'exemple avait été contagieux. Presque tous ces prophètes n'étaient du reste que des intrigants subalternes, entièrement dépourvus d'initiatives religieuses. S'adressant à des tribus simples et beaucoup moins raffinées que les Mekkois, ils avaient à leur service quelques tours de prestidigitation qu'ils donnaient comme preuve de leur mission divine. L'un d'eux, Moselle Lama, courait le pays en montrant une fiole à goulot étroit dans laquelle il avait fait entrer un œuf au moyen d'un procédé qu'il avait appris d'un jongleur persan. Et il récitait aussi des phrases rimées qu'il donnait pour des versets d'un second Coran. Qui le croirait? Ce vilain imposteur tint en échec durant plusieurs années toutes les forces musulmanes groupées autour d'Abou Bekr et balança la destinée de Mahomet. Il trouva un rival redoutable dans la prophétesse Sedjan, qui avait réussi à grouper derrière elle une puissante armée de Terminites. Moselle Lama, pressé dans Hajj, ne vit d'autre moyen de désarmer sa belle rivale que de lui proposer un tête-à-tête qui fut accepté avec empressement. Le prophète et la prophétesse en sortirent mariés. Après 3 jours donnés à l'hymen, Seldja entra dans son camp où ses soldats s'empressèrent de la questionner sur les résultats de son entrevue avec Mosilama. « J'ai reconnu en lui, dit-elle, un véritable prophète et je l'ai épousé. Mais Mosilama, nous donne-t-il un cadeau de noces ?» demandèrent les terminites. « Il n'a point parlé de cela, » répliqua Seldja. « Mais ce serait une honte pour toi et pour nous, » reprirent-ils, « qu'il épousât notre prophétesse sans nous rien donner. Retourne vers lui et réclame pour nous un cadeau. » Seldja alla se présenter à la porte de Hajj et, la trouvant barricadée, elle fit appeler son époux qui parut sur la muraille. Un héros lui exposa la réclamation des terminites. « Fort bien, répondit Mosilama, vous serez satisfait. Je vous charge de publier la proclamation suivante. Mosilama, prophète de Dieu, accorde exemption aux Benoutémim de la première et de la dernière des 5 prières que son confrère Mahomet leur a imposées. » Les Téminites prirent cette dispense au sérieux et l'on prétend que, depuis lors, ils n'ont plus fait la prière de l'aurore ni celle de la nuit. On peut juger par ces récits combien était peu profond le mouvement religieux chez les Arabes. Ce mouvement n'avait absolument rien de dogmatique en dehors d'un petit groupe très réduit. On raconte qu'après une victoire, Omar ordonna que chacun eût sa part au butin en proportion de la partie du Coran qu'il savait par cœur. Or, quand on en vint à l'épreuve, il se trouva que les plus braves d'entre les Bédouins n'en purent réciter tout juste que la formule initiale « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux », ce qui fit beaucoup rire les insistants. Ces natures fortes et simples n'entendaient rien à la mysticité. D'un autre côté, la foi musulmane avait trouvé dans les familles riches et fières de la Mecque un centre de résistance dont elle ne put triompher entièrement. Abou Sofyan, le chef de cette opposition, ne prit jamais franchement les allures d'un vrai croyant. Lors de sa première entrevue avec Mahomet après la prise de la Mecque, « Eh bien, Abou Sofyan, lui dit Mahomet, confesses-tu maintenant qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah ?»« Oui, répond Abou Sofyan. Et ne confesseras-tu pas aussi que je suis envoyé d'Allah ?» Pardonne à ma sincérité, reprit Abou Sofyan. Mais sur ce point, je conserve encore quelques doutes. Une foule de piquantes anecdotes témoigne du ton légèrement sceptique et railleur que ce personnage conserva toujours à l'égard de la foi nouvelle. Or, une foule de Mécois partageait ses sentiments. Il y avait à la Mecque tout un parti d'hommes d'esprit riches, nourris de l'ancienne poésie arabe, radicalement incrédules. Ces hommes avaient trop de bon goût et de finesse pour faire une bien vive opposition à la secte naissante. Ils embrassèrent l'islamisme, mais en conservant leurs habitudes et leurs allures profanes. C'est le parti des munafikoum, ou faux musulmans, qui joue un si grand rôle dans le Coran. À la bataille de Hunayn, où les musulmans furent mis en déroute, ils ne cachèrent pas leur joie maligne. « Ah, par ma foi, dit Kalada, je crois que cette fois-ci, Mahomet est à bout de sa magie. « Oui, il est donc, disait Abou Sofyan, ils courront jusqu'à ce que la mer les arrête. » Mahomet savait fort bien à quoi s'en tenir sur leurs sentiments. Mais en habile politique, il se contentait d'une soumission extérieure et faisait même en sorte que, dans le partage du butin, ils fussent plus favorisés que les fidèles dont il était assuré. Tout le premier siècle de l'islamisme fut qu'une lutte entre ces deux partis. D'un côté, le groupe fidèle des Mohadjirs et des Ansars, de l'autre, le parti opposant, représenté par la famille des Omeyyades ou d'Abou Sofyan. Le parti des musulmans sincères avait toute sa force dans Omar. Mais après l'assassinat de ce dernier, c'est-à-dire 12 ans après la mort du prophète, le parti des opposants triomphe par l'élection d'Othman. Othman, le neveu du plus dangereux ennemi de Mahomet, d'Abou Sofyan. Tout le califat d'Othman fut une réaction contre les amis du prophète, qui se virent écartés des affaires et violemment persécutés. Dès lors, ils ne purent jamais reprendre le dessus. Les provinces ne pouvaient souffrir que la petite aristocratie des Mohadjirs et des Ansars, groupés à la Mecque et à Médine, s'arrogeât à elle seule le droit d'être le calife. Ali, le vrai représentant de la tradition primitive de l'islamisme, fut toute sa vie un homme impossible, et son élection ne fut jamais prise au sérieux dans les provinces. De toutes parts, on tendait la main à la famille Omeyyade, devenue syrienne d'habitude et d'intérêt. Or, l'orthodoxie des Omeyyades fut toujours très suspecte. Ils buvaient du vin, pratiquaient des rites du paganisme, ne tenaient aucun compte de la tradition du prophète, des mœurs musulmanes et du caractère sacré des amis de Mahomet. De là l'étonnant spectacle que présente le premier siècle de l'Égypte, tout occupé à exterminer les musulmans primitifs, les vrais pères de l'islamisme. Ali, le plus saint des hommes, le fils adoptif du prophète, Ali que Mahomet avait proclamé son vicaire, est impitoyablement égorgé. Hossein et Hassan, ses fils, que Mahomet a tenu sur les genoux et couvert de ses baisers, sont égorgés. Ibn Zobéir, le premier-né des Mohadjirs, qui reçut pour premier aliment la salive de l'apôtre de Dieu, est égorgé. Les fidèles primitifs, serrés autour de la Kaaba, y continuent encore la vie arabe, passant le jour à causer dans les parvis et à faire les tournées processionnelles autour de la pierre noire. Mais ils sont devenus complètement impuissants. Les Omeyyades ne les respectent que jusqu'au jour où ils se croient capables de les forcer dans leur sanctuaire. Ce fut un étrange scandale que ce dernier siège de la Mecque, où l'on vit les musulmans de Syrie mettre le feu au voile de la Kaaba et la faire crouler sous les pierres de leurs balistes. On dit qu'à la première pierre lancée contre la maison sainte, le tonnerre se fit entendre. Les soldats de Syrie tremblèrent. « Allez toujours !» leur dit leur chef. « Je connais le climat de ce pays, les orages y sont fréquents dans cette saison. » Et en même temps, il saisit les cordes de la baliste et les mit lui-même en mouvement. Nous arrivons donc de toutes parts à ce résultat singulier, que le mouvement musulman s'est produit presque 100 fois religieuse, et qu'à part le petit nombre des fidèles primitifs, Mahomet n'opéra réellement que peu de convictions en Arabie, et qu'il ne réussit jamais à abattre l'opposition représentée par le parti Omeyyade. C'est ce parti qui, comprimé d'abord par l'énergie d'Omar, l'emporta définitivement après la mort de ce redoutable adversaire et fit élire Othman. C'est ce parti qui oppose à Ali une résistance invincible et finit par immoler à sa haine. C'est ce parti enfin qui triomphe par l'avènement des Omeyyades et va égorger jusque dans la Kaaba tout ce qui restait de la génération primitive et pure. De là aussi cette indécision où flotte jusqu'au XIIe siècle tous les dogmes de la foi musulmane. De là cette philosophie hardie, proclamant sans détour les droits indéfinis de la raison. De là ces sectes sans nombre, continuant par des nuances indiscernables à l'infidélité la plus avouée. Kamates, fatimites, ismaéliens, dualistes, druzes, hachichines, hermanites, zendiques, sectes secrètes à double entente, alliant le fanatisme à l'incrédulité, la licence à l'enthousiasme religieux, la hardiesse du libre penseur à la superstition de l'initié. Ce n'est réellement qu'au XIIe siècle que l'islamisme a triomphé des éléments indisciplinés qui s'agitaient dans son sein par l'avènement de la théologie ascharite et l'extermination violente de la philosophie. Depuis cette époque, pas un doute ne s'est produit, pas une protestation ne s'est élevée, et jamais peut-être l'islamisme n'a été aussi fort que de nos jours. La foi est l'œuvre du temps, et le ciment des édifices religieux se durcit en vieillissant.